Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex. Aujourd'hui, c'est le 25e numéro de notre émission Mare Nostrum, avec Fabrice, fidèle à la technique, et votre serviteur Raymond qui assure la préparation et la présentation de cette émission. Cette émission qui va essayer de faire le point sur certaines questions d'actualité. On peut pas faire le tour de toute l'actualité d'un pays méditerranéen dont il est beaucoup question ces temps-ci, qui a beaucoup changé, beaucoup évolué. Je veux parler de la Turquie. Et pour parler de ce sujet, nous accueillons Gérard Groc. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, Gérard Groc, qui est donc chercheur associé, qui va nous guider dans cette question, chercheur associé à l'IREMAM CNRS, à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, l'IREMAM, qui est donc un laboratoire de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Vous savez, vous connaissez très bien, puisque nous avons eu beaucoup d'invités de ce centre de recherche à Aix-Marseille Université, et nous sommes donc, bien sûr, partenaires. Alors donc, Gérard Groc, vous êtes donc spécialiste de la Turquie contemporaine. Vous avez écrit pas mal d'ouvrages, pas mal d'articles, parmi vos dernières publications. Donc un livre qui est dans la collection chez l'éditeur MAP, M-A-2-P-E, à Paris, Atelier Henri Dougier, un livre qui s'appelle « Islam et islamisme sous l'AKP ». Vous avez également écrit un ouvrage intéressant et dont qu'on évoquera d'ailleurs un petit peu dans cette émission, un ouvrage sur le halal en Turquie, aux éditions donc du CNRS. Et je vais en citer un autre parce que vous en avez écrit beaucoup, « L'essor d'une société civile face aux incertitudes démocratiques », aux éditions Pluriel Sciences Po à Paris. Voilà, donc vous avez écrit bien plus d'ouvrages que ça, bien plus d'articles que ça, mais j'ai pris donc les plus récents pour nos auditeurs qui aimeraient compléter leur information, et je mettrai d'ailleurs les références sur la page Facebook pour ceux que ça intéresse. Alors nous allons donc évoquer quelques questions d'actualité de la Turquie, et à commencer par celle qui fait beaucoup parler d'elle, bon, pas quotidiennement, mais en tout cas assez fréquemment, qui relève donc du pouvoir politique, donc de Erdogan, qui a donc transformé la vie politique turque et transformé surtout les institutions en institutions qui lui sont ajustées, on pourrait presque dire. Alors donc, Gérard Croft, vous allez nous expliquer un petit peu de quelle façon Erdogan s'est imposé et quelles sont finalement les principales mesures qu'il a prises dans le cadre de la Constitution et du renouvellement de la Constitution.
Alors, le renouvellement de la Constitution, c'est quelque chose de très récent. Mais pour remonter un peu en arrière et voir la position qu'il a prise et le pouvoir qu'il a réussi à construire, il faut reprendre un peu toute la genèse de sa présence au pouvoir, voire un peu avant. Et ce qui est intéressant, à mon avis, c'est le fait qu'on a d'un côté l'exemple d'un homme politique et d'une ligne politique qui a, à un moment donné, créé la surprise. Là, je remonte aux années, au début des années 2000, donc 2002, au moment où il a été élu, ou son parti, disons, a été élu. Donc, il a créé la surprise et qui a réussi à réaliser une ouverture inédite et des conciliations, voire des réconciliations que l'on ne croyait pas forcément possibles en Turquie. C'est-à-dire que le régime kémaliste ou le régime républicain, disons, avait créé certaines fractures, joué sur ces fractures, et Erdogan a développé une ligne ou un discours de conciliation où il a assemblé des termes qui apparaissaient antinomiques. Islam et démocratie, tradition et modernité, ouverture et en même temps conservatisme. Donc il a joué sur ces oppositions et il a réussi à obtenir un succès au niveau des électeurs et aussi au niveau des interlocuteurs qu'il pouvait avoir, autant au niveau intérieur qu'au niveau extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a réussi à avoir pour lui, tellement le système semblait bloqué, il a réussi à avoir pour lui les élites économiques, la grande bureaucratie, les hauts fonctionnaires, pour certains, en même temps les observateurs extérieurs, et il avait un discours, disons, qui avait un retentissement important à l'extérieur aussi, principalement au niveau européen, puisqu'il était capable de laisser penser qu'il y avait une conciliation possible entre islam et démocratie, islam et ouverture démocratique. Et ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. Et il a bâti tout un succès là-dessus, changeant, disons, revenant ou réformant, disons, des principes du parti dont il était issu, c'est-à-dire une ligne islamiste qui était beaucoup plus rigide, beaucoup plus fermée sur elle-même et principalement anti-européenne. Il a réussi à ouvrir tout ça et à créer donc des ponts qui lui ont finalement donné pas mal de succès et pas mal de soutien.
Oui, donc il a fait une synthèse qui a été efficace aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Je ne dirais pas une synthèse, je dirais un assemblage.
Un assemblage.
Parce que la synthèse...
Oui, la nuance est importante.
Oui, il a fait un assemblage, mais en tout cas qui a pris et qui a été très, très suggestif à cette époque-là et qui a vraiment intéressé. D'autant que, en faisant cette ouverture, il arrivait à créer des liens aussi au niveau économique. C'est-à-dire qu'il recrée un espace de discours, de dialogue, d'ouverture. En même temps, il donnait des assurances aux groupes industriels étrangers, puisqu'il était quand même aussi, mais ça il faut peut-être le dire aussi, il est issu, son gouvernement est issu aussi d'une crise monétaire qui est devenue une crise financière et qui est devenue une crise économique en 2001, qui a nécessité l'intervention du Fonds monétaire international, lequel a imposé un schéma de reconstruction de l'économie que Erdogan, pourtant opposé à toutes ces instances internationales, d'autant plus qu'elles étaient financières et capitalistes, a suivi à la lettre. Donc, à ce niveau-là, il était complètement aligné et de voir cette espèce de nouvelle atmosphère et de voir cette espèce d'épanouissement qui pouvait se faire, ça a attiré aussi énormément les finances, les financiers, les industriels qui ont investi et ça a fait une grosse partie de son succès parce que le niveau économique a été très un véritable succès pendant quelques années. Et ça, c'est quelque chose que le système dont il a su profiter aussi, et surtout, ça il faut le lui reconnaître, ce que ne faisaient pas ses prédécesseurs, il a su redistribuer.
Oui. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'il est le premier d'une série de chefs d'État qui vont être élus après, qui apparaissent comme novateurs, comme innovants, même si ce ne sont pas les mêmes innovations, mais sortant du cadre? Est-ce qu'il peut apparaître comme quelqu'un sortant du cadre, comme d'autres après, Trump, Poutine, Macron, etc.
Alors, il peut apparaître effectivement comme sortant du cadre, mais c'était le deuxième aspect de l'introduction que je voulais faire. C'est que ce qui est encore plus surprenant, c'est que par rapport à cette période de succès qu'il a su formuler, dont il a su développer des arguments intéressants, attractifs et ainsi de suite, ce qui surprend aujourd'hui, c'est qu'il a complètement inversé les choses. Et qu'il est capable lui-même de déconstruire tout ce qui a fait son succès, de prendre des options inversées et de mobiliser dans un schéma politique beaucoup plus serré, beaucoup plus rigide, beaucoup plus répressif, on a l'impression qu'il est en train de tuer ce qu'au contraire, il avait mis en place dans les premières années. Et c'est ça qui est étonnant, cette espèce de renversement. En tout cas, moi, ce qui m'étonne, c'est effectivement, cette capacité de renverser les choses, et deux, ce qui est encore plus étonnant, c'est le fait qu'il a autant de succès dans sa deuxième partie que dans la première partie. C'est-à-dire qu'il arrive, effectivement, en utilisant d'autres procédés, pas forcément, mais en procédant un peu de manière un peu aussi de manière un peu différente, il arrive quand même à avoir du succès et il arrive à entretenir une mobilisation. Alors après, il y a des systèmes, on arrive à savoir comment ils fonctionnent, mais il a un succès indéniable, un succès populaire. Et même si ce succès est quelquefois un peu tangent, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas énormément les 50%, il est à 52, 53, il ne fait pas des scores à la soviétique. Et donc, après c'est la question effectivement de la manipulation des voix, mais il ne fait pas des scores immenses, mais il arrive effectivement quand même à passer la barre.
Et ça lui permet quand même de se présenter comme quelqu'un de démocrate, étant juste à la majorité. Voilà. Il n'en abuse pas.
Il n'en abuse pas, mais à mon avis, il n'a pas besoin d'en abuser parce qu'il rencontre en même temps, et à mon avis, il joue de ça aussi, il rencontre aussi, je dirais, un peu les failles d'une approche en termes de démocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il gagne aux élections, où il est élu dans des élections relativement libres, même s'il y a quelques brouages d'urne et ainsi de suite, il arrive effectivement à apparaître comme étant légalement et légitimement élu. Et il passe, après, c'est vrai qu'au niveau international, il n'a strictement plus aucun problème, ça fonctionne. Eh oui. Et on lui reconnaît effectivement la légitimité du pouvoir, et après il en fait ce qu'il en veut à l'intérieur.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On fait une petite pause musicale avec un groupe Psychédélia d'Istanbul. Gérard Grok, on va poursuivre cette interrogation sur la Turquie. Alors donc, Erdogan va faire sa place. Vous nous avez déjà expliqué la façon dont la communication et la politique menée par Erdogan l'a amené à une certaine popularité, mesurée, mais une popularité quand même. Alors, plus concrètement, comment arrive-t-il à la situation actuelle de pouvoir presque quasi absolu, même s'il apparaît comme aussi démocratique.
Alors je pense que là, il y a plusieurs procédés. Je dirais, dans un premier temps, il y a la force de l'organisation AKP. Je pense que c'est une organisation extrêmement efficace, dont on ne connaît pas grand-chose. Il y a assez peu d'études qui ont été faites là-dessus. On ne sait pas bien comment ça fonctionne. Par contre, c'est une véritable logistique qui se met en place, surtout au niveau des quartiers, au moment des élections. Or, il faut bien avoir à l'esprit qu'en 16 ans de pouvoir, il y a eu 16 élections. C'est-à-dire que nous en sommes à peu près, ça n'a pas été la régularité, mais on en est à peu près à une moyenne de une élection par an. C'est-à-dire que l'on est complètement et toujours dans une ambiance électorale, dans une échéance électorale, ce qui veut dire que Erdogan mobilise sans arrêt son appareil, les gens, et ça se voit de plus en plus, c'est lui qui fait l'agenda politique. C'est-à-dire qu'il précise les choses, il lance des thèmes de campagne, il crée la polémique, il va inspirer ensuite les ripostes, mais en fait c'est lui qui guide. Et comme il a une personnalité relativement centrale, voire arrogante et très colérique, il attire forcément beaucoup de choses vers lui. Mm-hmm. Et donc on est complètement mobilisé par lui, autour de lui. Et aux dernières élections, d'ailleurs, il l'avait dit, à partir du moment où on va parler de lui, c'était quelque chose qui lui allait très bien. On lui reproche ci, on note ses insuffisances, on note ses excès, et ainsi de suite. Mais on parle de lui, et on ne parle pas d'autre chose.
Oui, c'est ça, c'est le principe même de sa communication.
C'est le principe même de sa communication. Outre le fait que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que de toute cette époque-là, il a su quand même redistribuer. C'est-à-dire que les finances qu'a accumulées le parti, l'État, l'économie, et ainsi de suite, il a fait de très grosses opérations pour une espèce de redistribution. Quelquefois, elle n'était que dans le discours, mais en tout cas, il mettait en avant cette espèce... Alors là, on peut le relier à l'islam. C'est cette espèce, effectivement, d'aumône indirecte faite par l'État, prise en charge, etc., etc., mais c'est quelque chose qui a eu énormément de succès et qui a fidélisé, je dirais, un électorat, cet électorat de 50% qui lui suffit et qu'il mobilise de manière absolument permanente.
Oui, qu'il suit tous les ans avec une période électorale qui est en permanence, qui voilà. Est presque permanente.
Voilà, voilà. C'est-à-dire que là, si vous prenez les dernières années, vous avez deux élections en 2015. En 2016, il y a eu le coup d'État. En 2017, il y a eu le référendum sur la présidentialisation. 2018, élections anticipées, qui étaient en même temps législatives et présidentielles. Et on sait qu'en mars prochain, il y a les élections locales. Donc on est mobilisé et toute l'actualité va déjà tourner. Alors après, bon, il y a les petits épisodes. Il y a 4 semaines, Erdogan n'a pas signé, n'a pas serré la main, pardon, de son allié politique. Alors on s'est demandé pourquoi et ça a fait l'actualité pendant 3 jours. Voilà. C'est très, très particulier de regarder ça. Comme en plus, la presse est maintenant complètement au pas et qu'il n'y a plus de journaux d'opposition, ou même s'il y a des journaux d'opposition, c'est au niveau de la mise en accusation, de l'invective et ainsi de suite, on est quand même dans un périmètre qui est relativement clos au niveau du débat politique. Et si vous voulez voir des articles intéressants ou des études intéressantes, ou bien il faut passer aux revues, ou bien il faut passer aux blogs. Mais là, on est dans une audience qui est relativement discrète.
Oui, la presse officielle, enfin la presse qu'on peut trouver partout en Turquie...
Elle est complètement achetée.
Elle est complètement achetée.
Oui.
Et au sens propre, d'ailleurs.
Au sens propre aussi, parce qu'effectivement, ce sont bien souvent des industriels. Et bien souvent des firmes de bâtiments, du BTP, des constructeurs, donc des groupes, des espèces de holdings, qui ont tout un tas d'activités et qui ont les marchés, c'est clair.
Ouais.
on réussisse à avoir les marchés et qui, bien entendu, certainement, crachent au bassinet
et renvoient l'ascenseur.
Et on renvoie l'ascenseur comme ils le peuvent.
Ouais. Alors, ce pouvoir, on peut peut-être un peu le caractériser, ce pouvoir personnel, cette présidentialisation du pouvoir, accéléré d'ailleurs depuis quelque temps.
Voilà, accéléré depuis quelque temps. Alors, la dimension personnelle, je dirais que même dès le début, quand Erdogan est arrivé et qu'il a su effectivement faire cette ouverture dont je parlais tout à l'heure, donc dans les années 2000, il était quand même extrêmement présent et c'était quand même autour de lui que se faisaient les choses. Et je me rappelle à cette époque-là m'être fait la réflexion que Erdogan était principalement quelqu'un qui faisait des discours. Il parcourait le pays, il haranguait la foule, il était toujours extrêmement présent, et il y avait le gouvernement qui, lui, gérait les affaires. Et il y avait une espèce de répartition, mais lui était très très présent, et il a une présence publique, publicitaire même, propagandiste, très très importante à ce niveau-là. Donc il en joue énormément. Et effectivement, il réussit à centraliser ou attirer l'attention. Alors tout à l'heure, je disais, un de ses atouts, c'est l'AKP, et c'est cette organisation partisane qu'il maîtrise absolument et qu'il sait mobiliser. Je dirais aussi qu'un des éléments de son succès, c'est aussi la faiblesse de ses interlocuteurs. C'est-à-dire que c'est les blocages qui caractérisait le système républicain au moment où lui est apparu, qui caractérisait tout l'ensemble de tout l'éventail politique, c'est-à-dire que y compris le parti islamiste de cette époque-là, dont il s'est détaché et dont il a su faire la critique, était déjà lui aussi dans l'optique de sa critique. Donc, si vous voulez, il a su faire table rase, il a su en tout cas apparaître comme un outsider quand il est arrivé, de quelqu'un qui avait un discours politique complètement nouveau, innovant, et qui allait proposer effectivement des solutions. Mais en face, effectivement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire que l'opposition principale, c'est le grand parti, l'ancien parti kémaliste, républicain kémaliste, qui plafonne aux alentours de 25 à 30%.
Ah oui, quand même pas complètement éteint.
Non, qui n'est pas complètement éteint, mais qui est insuffisant.
Oui.
Qui est insuffisant à ce niveau-là pour pouvoir le renverser, continue à fonctionner sur des thématiques qui sont aujourd'hui, je dirais, un peu ringarde, par exemple, la laïcité. Alors, là, on peut discuter de savoir dans quelle mesure la laïcité est ringarde, mais ça a été ringardisé.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça a été complètement ringardisé par Erdogan, dans la mesure où, justement, à partir du moment où on accepte de penser que la société turque est quand même une société où la religiosité est importante, le système kémaliste laïque avait quand même créé un hiatus. C'est-à-dire que on ne savait pas quoi faire de sa foi, on ne savait pas quand même complètement comment l'exprimer. Si on l'exprimait de manière politique, on se faisait réprimer. Si on l'exprimait de manière personnelle, ce qui était le propre même de la laïcité, cette liberté personnelle, il fallait quand même faire un peu attention. Quelquefois, ça marchait. Quelquefois, on se faisait réprimer. Donc, il y avait une espèce d'arbitraire. Et là, je pense qu'il faut dire, effectivement, que Erdogan a apaisé un peu les choses. Et on pouvait être d'aujourd'hui et en même temps pieux. Ce n'était plus un hiatus. Même si, après, il y a une gradation pour chacun, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'il a aidé à faire ça. Donc, le Parti républicain a un discours laïque qui est plus ou moins mal supporté par les religieux, mais mal supporté aussi par les démocrates. Mm-hmm. Il y a un discours du Parti républicain qui n'est pas favorable aux Kurdes. Donc, et le parti kémaliste reste quand même celui qui a mené toutes les répressions depuis le début de la République contre les insurrections, les soulèvements, les revendications kurdes. Donc, si vous voulez, il ne fait pas, et de loin, un rassemblement des voix suffisamment fort pour effectivement inquiéter Erdogan. En face, vous avez le milieu conservateur, qui n'était pas forcément islamiste, qui était nationaliste, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les deux ont fusionné.
Voilà, c'est ça, c'est voilà. Un glissement.
Il y a un glissement que l'on peut expliquer de la manière suivante, c'est qu'à un moment donné, et ça aussi c'est un aspect un peu particulier de Erdogan a été le premier à proposer une ouverture kurde. C'est le premier qui a osé penser qu'il y avait un problème kurde et qu'il fallait le régler et qu'il fallait mettre beaucoup de choses dans la balance pour essayer de le régler. Il l'a dit, il ne l'a pas fait. Mais il l'a dit, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, se sont dressés ou se sont un peu contractés des milieux nationalistes qui ne sont pas forcément des gens de droite, mais qui peuvent être aussi des kémalistes de gauche. Mais il faudrait préciser ce que c'est qu'à la gauche. Oui. Mais des gens qui, effectivement, ne sont pas prêts forcément à ouvrir le système, soit à le démocratiser, soit à l'ouvrir sur une composante ethnique, linguistique, voire confessionnelle différente, qui n'a pas encore pour tout le monde son droit d'existence à l'intérieur de la Turquie.
Donc il n'y a pas véritablement d'opposition, pour aller vite, de gauche, quoi, d'opposition démocratique. Je veux dire sincère, quoi.
Démocratique et gauche, ça marche pas. Enfin, dans les nomenclatures, ça marche pas forcément ensemble, étant donné que le pays, le parti qui valait pour la gauche, donc kémaliste, était quand même parfois assez antidémocratique. Si vous voulez, ça c'est difficile à faire ces assemblages. La dimension démocratique, c'est beaucoup plus apparu dans les années 90. C'est un peu une dimension société civile. Mais on s'aperçoit que la société civile, d'abord, c'est un concept très élastique qui a pu être tiraillé par absolument tous les horizons politiques et qui, ensuite, n'a pas réussi à donner véritablement de résultats car il y a une espèce d'ouverture au-delà d'un positionnement partisan qui n'est pas très familier en Turquie. On est encore très arc-bouté sur son dire, sur les intérêts que l'on défend, sur le parti que l'on représente, avec lequel on s'aligne, et ainsi de suite. Donc ça, c'est, les positionnements politiques sont assez difficiles à repérer et à faire fonctionner ensemble.
On va faire une petite pause musicale avec, je parle sous votre contrôle, hein, Selda Baksam, qui chante Uğurlar Olsun.
Sabahıydı Ankara kar altında Zemheri ayazıydı Yaz güneşi koynunda Ucuz can pazarıydı Kalemim düştü kana Kalemim düştü kana Zalimler pusudaydı, bedenim paramparça. Ucuz can pazarıydı, kalemim düştü kana. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşım olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlüm. Yürekli yiğitlerim hatıra olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun Bir keskin kalem,
bir kırık gözlük yürekli yiğitlere hatıran olsun.
Alors, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Zinzine. Vous écoutez l'émission Mare Nostrum, où il est question donc de la Turquie actuelle, en compagnie de Gérard Groc, chercheur associé à l'IREMAM à Aix-Marseille Université. Alors, Gérard Groc, nous avons parlé donc de la place de ce président, et je voulais vous questionner maintenant sur les institutions qu'il a mis en place pour exercer son pouvoir. Et de quelle façon il a organisé ce pouvoir personnel très, très puissant, au-delà donc de sa personnalité riche et, on pourrait dire, charismatique, puisque quand on voit les rassemblements lors de ses discours, il y a un succès populaire absolument extraordinaire. Donc, sur le plan institutionnel, que s'est-il donc passé dans ces derniers mois, dans ces dernières années ?
Alors, c'est principalement l'aboutissement vient de se réaliser l'été dernier, mais effectivement, c'est un processus qui est qui a duré un peu dans le temps, dans la mesure où il a commencé à parler d'une présidentialisation de régime, enfin Erdogan a commencé à en parler, en 2011-2012. C'était après des tentatives, si vous voulez. Je pense que dans un premier temps, il y avait véritablement une carte d'ouverture européenne. Et il pensait dépasser certains blocages en ouvrant effectivement sur des principes et un fonctionnement européen. Ce fonctionnement européen lui a été refusé, je dirais, par un référendum en 2005, au moment où il s'agissait dans nos pays européens de définir ce qu'était l'Europe, comme je pense qu'on avait un peu de difficulté à définir ce qu'était l'Europe, on a surtout défini ce que ne devait pas être l'Europe. Et il se trouve que la Turquie était en ligne de mire de ce que ne devait pas être l'Europe, un pouvoir autoritaire, un pays musulman, un pays religieux, le retour du religieux, etc. Elle a focalisé un peu les peurs. Et à partir de ce moment-là, il y a eu, un renversement. Et au moment où la Turquie devenait pro-européenne, et Erdogan, bien entendu aussi, a reçu ça comme étant véritablement un rejet. Donc à partir de ce moment-là, les choses ont un peu changé. Il y a eu aussi des événements intérieurs où, au moment d'une réélection en 2007, la légitimité de son pouvoir qui était établi donc, depuis 2002 et qui semblait avoir gagné un sentiment relativement assez large, a été remise en cause. Parce qu'il y avait un problème de présidence, d'élection présidentielle, et qu'il apparaissait absolument insupportable à la Turquie d'avoir un président islamiste. Et à cette époque-là, surtout, un des grands arguments était d'avoir une femme voilée dans le pays, dans le palais présidentiel où avait été Atatürk. Donc on était au niveau des symboles. Et à partir de ce moment-là, effectivement, Erdogan, je dirais, s'est replié sur son camp. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à polariser la vie politique. On était pour ou on était contre. Et à partir de ce moment-là, sont sortis tous les thèmes sur l'islam, sur les Kurdes, sur l'Europe, et des thèmes qui étaient clivants et par rapport auxquels il fallait se positionner, ce qui n'était pas forcément toujours facile, et lui a joué beaucoup là-dessus. Donc, à un moment donné, cette idée d'ouverture constitutionnelle et d'édification d'un régime démocratique ne lui allait plus. Et c'est donc dans les années 2011-2012 qu'il a commencé à parler dans son projet présidentiel. C'était l'idée, et ce sont des arguments qui sont encore utilisés aujourd'hui, c'est d'abord une mise en doute de l'Europe, le fait que l'Europe et globalement l'Occident ne sont pas sincères dans leurs principes, puisqu'ils ne les appliquent pas eux-mêmes, et qu'ils arrivent à être complètement sélectifs dans les applications, où ça marche dans un sens, mais ça ne marche pas forcément dans l'autre, et généralement ça ne marche pas forcément envers l'islam. Donc ça, c'est quelque chose qui a été noté par Erdogan. Ensuite, c'est des questions aussi d'efficacité. Là, c'est une constante chez lui. C'est l'efficacité gouvernementale. Donc, pour être efficace, d'abord, il faut agir très vite. Il faut faire des plans d'urgence. Ça, il en a fait en arrivant en 2002, il vient d'en faire un à nouveau maintenant, où en l'espace d'un an, il doit avoir réglé 36 000 problèmes, il doit avoir apporté la solution et avoir fait ce qu'il a dit et dit ce qu'il a fait. Enfin, bon, vous connaissez le système. Il y a donc cette idée d'efficacité et ce qui amène forcément à l'idée qu'il faut que les pouvoirs soient réunis. Plus on est dans le Parlement, plus on est dans la multiplicité des voies politiques et dans le pluralisme, plus il y a de la lenteur, plus il y a de la discussion avant d'obtenir un accord et avant d'être efficace. Or, la Turquie est dans l'urgence. Donc, enfin, ça c'est sa ligne. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, il faut donc automatiquement une efficacité et une réunion des pouvoirs, qui est en même temps une unité de la ligne politique et qui est une unité qui ne se laisse pas perturbé par des opinions contraires ou des opinions diverses ou des débats et ainsi de suite. Donc, en fait, il n'est pas tellement pour la division des pouvoirs. Il est pour la réunification de tous les pouvoirs dans une seule main, ce qui, effectivement, est gage d'efficacité pour lui. Et c'est quelque chose que l'on sent très fort. Et donc, il a mis peu à peu en place un système qu'il a eu du mal à mettre sur pied. Il y a eu. Alors, il faudrait peut-être aussi parler dans la mise en. dans la genèse de ce système aussi, des phases d'opposition. Des phases d'opposition. Vous vous rappelez peut-être qu'en mai 2013, il y a eu la fameuse insurrection du parc Gezi sur la place Taksim, où effectivement un objet politique complètement nouveau, une espèce de réunion non partisane, au-delà des sensibilités, dans une espèce de grande ambiance festive, avait investi la place Taksim et avait créé une espèce de commune, une espèce de république. C'était en fait quelque chose d'absolument inédit. Et qui avait eu des répercussions dans à peu près, je crois, 79 départements sur 81. Donc c'était quelque chose qui n'était pas uniquement limité à Istanbul, et qui s'était répandu comme une traînée de poudre. Et on avait vu les nationalistes, les Kurdes, les Alevis, des islamistes enturbanés qui arrivaient, et tout ça se mêlait joyeusement dans une espèce de communion qui était un peu une espèce de dévoilement un peu de la politique de Erdogan, c'est-à-dire que c'est le premier moment où on a fait le lien entre l'immobilier, le discours néo-ottoman et le discours répressif. Et tout ça était lié, et là c'était complètement dévoilé, c'était absolument clair, et il y a eu une mise en cause. Et Erdogan a très mal supporté cela. Et
oui, c'est ça, parce qu'il y a quelque chose qui lui a échappé. Là.
Il y a quelque chose qui lui a échappé, il y a une gestion de la crise qui lui a échappé, il y a une violence policière qui était certainement sur sa recommandation, mais qui est très, très mal perçue au niveau de la Turquie et qui a renforcé la capacité, disons, d'insurrection, en tout cas de révolte. Et cette crise donc de mai 2013 a été prolongée ensuite par la rupture d'alliance qu'il y avait entre le gouvernement AKP et le groupe Gulen, qui s'est mobilisé en décembre 2013 et a commencé à bombarder à coups de messages vidéo, d'enregistrements clandestins, etc., qui a visé typiquement Erdogan, sa famille, son entourage proche, et où on l'attaquait directement sur la corruption. C'est-à-dire lui qui voulait donner une image de leader absolument propre, se faisait attaquer directement par des gens qu'il avait suivi de très près. Et donc là, il est évident que, il a mis ça sur le coup d'un complot international, la CIA bien entendu, puisque Gulen habite en Pennsylvanie, et que donc la CIA ne pouvait pas ne pas savoir, et donc c'était elle qui pilotait plus ou moins. Enfin bref, il y avait quand même un complot contre lui, et à partir de ce moment-là, on a effectivement de plus en plus cerner le projet présidentiel. Et le projet présidentiel, c'est aujourd'hui l'accaparement absolument de tous les pouvoirs et de tout le phénomène de la décision dans ses mains. Alors quand on regarde le schéma institutionnel qui a été mis en place par qui est passé au niveau du référendum, hein, qui a quand même été accepté en 2017, un référendum où il a eu 51, quelque chose, mais bon, il a quand même été accepté. Quand on regarde ce schéma, on voit qu'effectivement, tout tourne autour d'un président assorti d'un vice-président et qui est entouré de tout un tas d'instances qui sont des instances techniques selon les différents répartis en fonction des domaines de gouvernement, mais qui lui servent directement d'expertise, disons. Et il en a deux ou trois comme ça autour de lui avant qu'il soit face au dispositif du gouvernement.
C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement ne sert plus à grand-chose en soi.
Le gouvernement, c'est une assemblée de 16 départements qui sont donc des administrations autant centrales que décentralisées, qui ont donc une structure qu'il faut faire fonctionner. Mais effectivement, les différents domaines de ces ministères sont doublés au niveau des conseils, des comités d'experts que Erdogan a autour de lui. C'est-à-dire qu'on peut fort bien imaginer que la politique est d'abord déterminée à ce niveau-là, et ensuite elle est répercutée, voire imposée, après à un ministère qui est en charge de l'application.
Oui, je suis encore en train de penser à cette image de novateur dans la façon de gouverner. On va en reparler un peu après. Je vous propose une petite pause musicale. C'est un jeune rappeur, voilà, qui parle en particulier d'un membre de sa famille qui est mort dans la prison de Diyarbakir. Voilà, donc une chanson où le jeune rappeur Sansar Salvo rend en fait hommage à son père Onlat, c'est raconte. Je parle sur
explique,
le contrôle.
Oui, c'est voilà, ça.
Explique. Alors donc, ces institutions que Erdogan va créer autour de lui, qui mettent finalement, on pourrait dire, pour parler vulgairement, dans le vent, les institutions normales de la République. Alors, si on les détaille un petit peu pour mieux comprendre le fonctionnement de ce pouvoir autoritaire, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Il faut commencer d'abord par l'exécutif. Voilà. Donc l'exécutif lié à une seule personne, lui, élu pour 5 ans, renouvelable une fois, élu donc au suffrage universel, c'est ce qui fait sa force aussi, c'est que c'est le premier président à être élu au suffrage universel par une élection qui a eu lieu en 2014.
C'est un suffrage direct ?
Suffrage direct universel, mais ce qui n'existait pas.
Ah oui,
d'accord. Ce qui n'existait pas.
Mm-hmm.
Donc, c'est un processus qui a été un peu lent à se mettre en place, mais il a effectivement... D'abord, il y a eu le suffrage universel en 2014, et puis il y a eu le référendum qui a proposé l'application de ce système présidentiel. Donc, il est légitime. Il est forcément légitime, mais la particularité de ce... Alors, si vous voulez, c'est un régime présidentiel de type turc. Hein, c'est comme ça, l'intitulé, c'est ça.
C'est intitulé comme
parce
ça.
Parce qu'il y a eu un débat à savoir si c'était de type américain, si c'était de type français, semi-présidentiel, présidentiel, on ne savait pas. Non, c'est de type turc. Et de type turc, ça veut dire qu'il est non en même temps président et en même temps chef de parti. C'est-à-dire qu'il est donc complètement à la tête de son parti et il mobilise complètement son parti pour gouverner. On n'est pas du tout dans l'idée d'un arbitrage.
Oui, c'est ça. Ce n'est pas du tout la conception française du président de tous les Français hors des partis.
Voilà. Ni dans un arbitrage, ni avec des contre-pouvoirs.
Mm-hmm.
Là, il n'y a pas de contre-pouvoir.
Il n'y a pas de contre-pouvoir.
Non, il n'y a pas de contre-pouvoir.
Tout a disparu.
Tout a disparu. Tout a été enveloppé dans cette espèce de système solaire qui gravite autour de lui. Et donc, il est président, il est chef des armées et chef de parti. Et le fait qu'il soit chef de parti, à mon avis, c'est quelque chose, effectivement, de très, très caractéristique et en même temps de très partial.
Forcément,
parce que il se situe en tant que concurrent par rapport aux autres et automatiquement, il mène une politique qui n'est pas donc pour tout le pays, mais qui est selon la ligne de son propre parti. Comme c'est lui qui détermine la ligne de son propre parti, on reste toujours dans un centre très, très refermé sur lui-même, mais il y a quand même cette capacité à être partial à l'intérieur de sa présidence.
C'est-à-dire qu'il fonctionne en fait contre ce qui, de ce fait, étant chef de parti, assure une certaine cohésion. Une cohésion permanente de ses partisans.
Et voilà. Mais en même temps, moi, l'analyse que j'avais faite après le référendum, au moment où il avait eu 51%, bon, maintenant, la dernière élection, il est remonté un peu plus, mais je me disais que, en même temps qu'il assure la cohérence ou la cohésion au niveau de son parti, en même temps, il assure aussi la cohésion de tous les antis.
C'est-à-dire vrai.
C'est-à-dire que qu'on soit kurde, qu'on soit républicain, qu'on soit laïque, qu'on soit lévi ou ainsi de suite, si on est contre, on est contre. Et on fera en sorte de se mobiliser. Seulement, il est arrivé effectivement à anéantir ce plan-là, parce qu'au niveau des élections législatives et au niveau des élections municipales qui vont se tenir l'année prochaine, il faut pouvoir faire des coalitions. Et les coalitions ne tiennent pas.
Parce qu'elles elles se sont quand même formées au moment des législatives, il me semble me souvenir, non ?
Alors, il y a eu une coalition qui s'est formée, mais
qui n'a pas fonctionné.
Ouais. Qui n'a pas fonctionné. Et le problème, si vous voulez, dans cette coalition, c'est que la problématique principale actuellement en Turquie, à peu près à tous les niveaux, c'est la question kurde. Mais les Kurdes représentent un électorat d'une vingtaine de pourcents.
Ah oui,
donc,
quand même, oui.
Oui, quand même.
Quand même.
Mais ils sont seuls.
Eh oui.
Voilà. Et donc les autres partis, à partir du moment où ils n'endossent pas eux-mêmes une alliance ou une politique pro-kurde, c'est-à-dire s'ils ne se sentent pas liés, eh ben forcément, ils ne vont pas se mobiliser pour cela.
Oui.
Et l'autre question aussi, c'est que la question kurde exigerait une ouverture démocratique bien supérieure à ce dont la Turquie a l'habitude, qui demanderait effectivement de repenser le problème de l'altérité et de l'altérité à l'intérieur de sa communauté nationale. Il n'y a pas que la Turquie qui a des difficultés avec ça.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en Turquie, ça pose problème. Donc, si vous voulez, c'est là qu'il y a des alliances difficiles. Et actuellement, par exemple, il y a un député arménien à l'intérieur du parti pro-kurde qui est en train d'essayer de mobiliser tous les partis d'opposition en disant, pour les municipales, allions-nous et faisons véritablement une coalition pour prendre le pouvoir à ce niveau-là. C'est le même motif qui avait été mis en place pour la présidentielle et qui avait été mis en place pour les législatives et qui n'a pas fonctionné.
Marché. Et les prochaines élections, c'est
en mars 2019.
En mars 2019, c'est voilà. Dans pas longtemps. Donc c'est déjà dans les,
ah oui,
dans
oui,
les
oui,
tuyaux.
Là, tout ouais. À fait. Et, c'est, et ce sont les municipales. Alors, les municipales, ça a un enjeu aussi particulier parce que la KP est quand même arrivée au pouvoir à travers les municipales. Hein, les premiers succès, c'était Erdogan à Istanbul, c'était Milik Gökçek à Ankara. C'était des choses qu'on n'attendait pas, qui sont tombées d'un seul coup sur le personnel politique et sur l'actualité politique. Et ce sont des choses, ce sont des épisodes qui ont été des épisodes à succès. C'est là-dessus qu'ils ouais. Ont bâti ensuite toute une pérennité ou une pérennisation, disons, de leur présence. Donc, à ce niveau-là, c'est important. L'évolution au niveau des municipalités, elle est très contrastée, parce que vous avez aussi des municipalités kurdes qui sont très bien, comment dire, qui sont très bien élus. Qui ont élargi complètement la capacité de leur gestion, qui ne sont absolument plus dans une approche ni sectaire,
ni identitaire,
ni rien du tout, mais qui sont beaucoup plus dans une approche démocratique. Et vous parliez de Diyarbakır là-dedans. Diyarbakır, c'est effectivement une ville kurde, mais de plus en plus, on s'aperçoit que c'était une ville arménienne, qu'il y avait des côtoiements sinon des alliances dans ces villes-là, et qu'il y a encore des Boresses, mm-hmm. Disons. Les élections municipales sont un risque aussi de voir des forteresses d'opposition relativement bien confortées par les élections. Actuellement, les municipalités kurdes ont été toutes plus ou moins évincées, et vous savez que l'on a mis en place des gens qui sont nommés par l'administration, on invalide les élus et on met des tutelles.
Ah voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que voilà. Vraiment les municipalités kurdes exercent effectivement
non.
Le pouvoir ?
Non, ils ont une gestion, ils sont trop dangereux.
Voilà, et oui, c'est ça. Une gestion administrative.
Voilà. Et là, on les a mis sur, où ils sont en prison,
tutelle,
ils sont sous tutelle, ils sont éliminés. Les élus sont éliminés.
Donc la vie politique est difficile alors.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Et il y a des scandales qui apparaissent aussi. Alors, récemment, il y avait des inondations dans une ville de l'Est, et les gens disaient, mais regardez tout simplement ce qu'a fait le préfet nommé ou le gouverneur nommé par le gouvernement, et on suivait sa politique, et ce n'était absolument pas une politique municipale.
Oui,
donc bon, après, c'est aussi facile après de mobiliser contre lui, mais bon, donc ces élections, effectivement, sont importantes. Là, il y a un véritable danger pour lui. Alors, vous aviez posé la question de l'exécutif. Le président, eh ben, finalement, il a l'initiative des lois, il a l'initiative du budget, il promulgue les lois, bien entendu, il a un droit de veto sur ce qui a été décidé. Il nomme les hauts fonctionnaires, il nomme les ministres, il nomme la haute administration, il nomme la justice, il nomme pratiquement tout le monde. Et il gouverne par un système de décret de loi.
Ah oui, donc...
Voilà.
Oui, c'est complètement, complètement fermé.
C'est complètement fermé. Et le gouvernement, c'est donc un conseil. Il faut savoir aussi que les ministres, à part quatre ministres, ne sont pas issus du Parlement. Donc ce sont des fonctionnaires.
Oui.
La haute administration, ils sont choisis pour leurs compétences ou pour leur capacité de relais. Hein. Et alors, au niveau de l'armée, là, il y a eu quelque chose d'assez intéressant. C'est que l'armée, qui de tout temps était traditionnellement laïque, donc anti-islamiste, et qui, pendant pas mal de temps, a quand même été assez rébarbative vis-à-vis de Erdogan, dans les années 90, Erdogan, grâce à la conquête de la présidence de la République, a réussi à intervenir dans les nominations intérieures de l'armée, et principalement donc à la nomination du chef d'état-major. Il a nommé quelqu'un qui était plus ou moins favorable à lui, ou en tout cas au dialogue avec eux, et ce chef d'état-major, qui s'est retrouvé prisonnier au moment du coup d'État, hein, qui a été enfermé dans son bureau au moment du coup d'État, était donc le dispositif qui lui permettait d'avoir un œil sur l'armée et de pouvoir la contrôler. Et dans le nouveau gouvernement, c'est cet ancien chef d'état-major qui a été pris comme ministre de la Défense.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on continue à pouvoir surveiller tout le personnel militaire à travers le même personnel. Donc ça, c'est assez particulier. Mais bon, Erdogan est véritablement maintenant le décideur au niveau de l'armée. C'est lui qui a décidé des opérations militaires au niveau de la Syrie du Nord, à Idlib et ainsi de suite. C'est lui qui pousse sans arrêt à maintenant une alliance avec les troupes américaines autour de Manbij Beach, qui sont en même temps les protecteurs des Kurdes. Donc le schéma est un peu compliqué.
Ah oui.
Mais bon, il arrive à maîtriser tout ça. Et face à lui, si vous voulez, ben le Parlement n'a plus de rôle.
D'accord.
C'est-à-dire que le Parlement...
C'est une chambre d'enregistrement.
Une chambre... Alors, Erdogan lui-même l'a dit, vous êtes là pour faire des lois. Donc, il travaille sur des systèmes de lois qu'on leur suggère, des thématiques qu'on leur suggère, et ainsi de suite, qui viennent de la présidence. Mais ils travaillent donc, ils font le travail de la rédaction des lois. En tout cas, ils ne sont plus du tout des représentants. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout en rapport avec un électorat, et ils ne sont plus du tout les médiateurs d'une demande populaire qui remonterait et qui passerait par le Parlement. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pratiquement.
Oui, donc ils ne sont plus ni représentants, ni décideurs. Bon, ils sont rédacteurs.
Ils sont rédacteurs.
En fonction des consignes qu'on leur donne.
Voilà. Ils sont rédacteurs. Et donc, ils ne sont plus du tout en prise par rapport à la réalité sociale et politique. Donc, on est complètement enfermé. Et si vous prenez ensuite la haute administration, et ben avec les nominations que peut faire le président, et principalement au niveau de la justice... c'est bouclé.
La boucle est bouclée.
Voilà.
C'est ça. Bon, en tout cas, je vous remercie. On a beaucoup on nous a bien écouté parce que on a appris plein de choses là. Oui, on a atteint l'heure. Oui, Gérard Grand, on a atteint l'heure. Ce qui veut dire que nous avions bien sûr été très ambitieux sur cette émission et ça nous permettra d'en faire une seconde un petit peu plus tard dans l'année pour revenir sur un certain nombre d'éléments. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous écouter le jeudi à 12h30 et le samedi à 15h ou à 19h en alternance sur 88.1 sur Radio Zinzine Ex et sur radiozinzine.org. Je vous invite aussi à nous suivre sur notre page Facebook Marie Nostrum, une émission de Radio Zinzinex, ça s'appelle. Voilà, où sont annoncées les émissions, leur rediffusion, ainsi que quelques informations complémentaires sur le thème des émissions. Merci beaucoup Gérard Grock, donc chercheur associé à l'IREMAM. Et bientôt, nous nous retrouverons pour une autre émission. Merci.
tekme bana. Sana senin gibi gibi baktım ise yuh. Efendi görünü bütün insana, hakkını kullarını yıktım ise yuh. Yuh yuh, yuh yuh. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh.